Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde où nous allons parler des approches rationnelles de la magie et de science fantasy. Je vais vous lire la présentation de cette table ronde qui est tout à fait intéressante et intelligente et qui sera bien meilleure que l'introduction que j'aurais pu inventer. Donc Arthur C. Clarke avait pour coutume de déclarer que toute science suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Mais si l'inverse était vrai aussi, si la magie la plus avancée était au fond une forme de science. Certains auteurs, comme Jack Vance, l'ont cru et l'ont fait valoir. Qu'en est-il aujourd'hui, à l'heure où le merveilleux frappe à la porte du réel ? Pour discuter de ce beau sujet, nous avons avec nous trois auteurs, et pas des moindres, et qui ont tous les trois œuvré dans le genre de la fantasy avec différentes approches. Donc Catherine Dufour, qui a écrit des nouvelles, des romans, de la science-fiction, de la fantasy, des guides pour les petites filles et vraiment toutes sortes de choses, mais qui visiblement a éprouvé du plaisir à écrire de la fantasy, puisqu'elle nous a délecté de sa série « Quand les dieux buvaient », avec Blanche-Neige et les lance-missiles et quelques autres titres et tout l'ensemble des titres. Je suis fatiguée, pardon.
L'ivresse des providers, l'immortalité, moins 6 minutes et Merlin l'ange chanteur.
Voilà. À côté d'elle, Charlotte Bousquet, qui est philosophe de formation, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un imaginaire débridé et parfois fantaisiste, qui a écrit environ une trentaine de romans, qui a écrit de la fantasy, mais aussi des thrillers, qui se passionne pour l'histoire, qui a écrit dans des genres très divers. Et si on parle de fantasy ici, je pense qu'on va surtout parler de Citeriae, mais il y aura sans doute d'autres ouvrages que nous évoquerons ici. Et enfin, Jérôme Noirez, qui lui aussi a beaucoup écrit, puisqu'il a au moins une vingtaine de romans à son actif, de la fantasy baroque, des thrillers historiques. Jérôme a écrit pour les adultes et pour la jeunesse, et je pense qu'on parlera par exemple de Féerie pour les ténèbres, qui a beaucoup fait parler de lui. Donc tous les trois aiment la fantasy, ne sont pas complètement irrationnels, donc j'imagine que la question de la rationalité va leur parler. Donc je crois que je vais commencer par leur demander à tous les trois et à tour de rôle pourquoi ils aiment la magie et la fantasy. Qu'est-ce que ça leur permet de faire que d'autres formes de littérature ne leur permettraient peut-être pas de faire? Et en particulier à ceux d'entre eux qui ont écrit aussi de la science-fiction ou du thriller, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la fantasy et dans l'utilisation de la magie? Qui veut commencer? On va peut-être commencer par Charlotte. Tu veux, ou quelqu'un d'autre?
D'accord. Alors, en fait, la fantasy, pour moi, est un genre qui est complètement ouvert. C'est un genre qui permet, finalement, d'écrire aussi bien du thriller que du théâtre, que du roman sentimental ou de l'introspection. Pour moi, c'est vraiment en écrivant de la fantasy que je me suis sentie, en tout cas pendant un moment, parce que j'ai mis un peu ralenti le rythme d'écriture imaginaire, je me suis sentie plus libre de faire quelque chose, d'exprimer ce que je voulais. C'est un genre en fait qui, pour moi, qui est complètement hybride, qui agglomère, qui prend dans plein d'autres styles différents. Et la magie dans la fantasy est à la fois quelque chose de complètement finalement naturel et complètement pratique. Et en même temps, en tout cas, quand on la crée, quand on réfléchit à quel genre de magie on va utiliser ou quel genre de magie on va pouvoir instiguer dans un univers précis, nécessite en tout cas au moins au départ une certaine construction, une certaine logique, un plan effectivement qui pourrait être presque scientifique, même si en général moi j'ai tendance à partir très très vite et à dériver beaucoup. Voilà.
Et Jérôme, à quoi ça sert de mettre de la magie? Quel genre de magie et pourquoi faire?
Je crois que moi, la magie, elle est dans certains de mes bouquins, surtout comme élément de lien. Parce que, par exemple, le Ferry pour les ténèbres, je l'ai travaillé en agglomérant des rêves. Donc, ce travail d'agglomérat onirique, le lien le plus évident que j'avais trouvé était le lien magique. Ceci dit, la magie telle que je l'ai moi exploitée dans Féerie pour les ténèbres, c'est une magie très très à défaut d'être rationnelle, parce que là on touche quand même à l'oxymore, quoi, même la magie rationnelle, à défaut d'être rationnelle, elle est matérielle, elle est charnelle, elle sort pas du néant. Donc moi le rapport que j'ai avec la magie n'est pas celui de la comme dans les jeux de rôle, l'informatique, la mana, une espèce de truc immanent comme ça qu'on va tirer d'un arrière-monde inconnu. Moi, la magie, elle vient plutôt des organes, des matières. Dans Ferry pour les ténèbres, la magie, elle est liée au glaire. Bon, après, c'est un choix, hein, on n'est pas obligé de partager, on aurait pu lier la magie à d'autres matières, mais je trouvais que les glaires c'était encore assez peu exploité dans la fantaisie. Donc moi je fais de la fantaisie avec de la glaire en fait.
Vous voyez que nous commençons à voir le vrai visage des auteurs déjantés. Catherine va nous dire ce qu'elle fait avec la magie et pourquoi des récits aussi baroques, échevelés ou n'importe quoi peut se produire alors qu'à côté de ça tu peux écrire aussi des récits extrêmement rigoureux et beaucoup moins échevelés.
Pour moi, il y a la différence entre une écriture qui utilise de la magie et une écriture qui utilise la science. C'est que souvent, on utilise une invention scientifique pour créer un événement dans un monde dit normal. Par exemple, tout d'un coup, dans notre monde, on a inventé et mis au point le clonage. Donc là, ça va créer une histoire. Alors que la magie est souvent un élément inhérent au monde. Donc la SF permet de créer un événement qui va créer une histoire, alors que la fantasy, il y a une magie inhérente au monde, tout simplement on crée un monde. Et pour faire, moi il y a une définition que j'aime bien, pour définir la différence entre la science-fiction, le fantastique et la fantasy, si vous rentrez chez vous et votre chat vous dit « bonjour », si vous vous dites, il peut me dire bonjour au prix que m'a coûté son implant dans le pharynx, c'est de la science-fiction. Si vous répondez bonjour chat, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal que les chats parlent, vous êtes dans un monde de fantaisie. Et si vous faites ah, c'est que c'est du fantastique. C'est-à-dire que c'est pas du tout normal que votre chat vous parle et il va falloir que vous trouviez pourquoi. Et à chaque fois qu'on me pose la question, je reviens à cette définition qui me paraît claire et basique.
Donc, dans le monde de Catherine Dufour, on est dans un monde merveilleux où la magie est omniprésente. Il y a des tas de manières d'aborder la fantaisie et de l'inclure dans ces mondes. Charlotte, Jérôme, est-ce que pour vous, c'est un monde enchanté dans lequel la magie est omniprésente? Ou est-ce que vous êtes plutôt, vous avez envie de doter vos personnages de pouvoirs particuliers? C'est une ambiance ou c'est quelque chose qui fait partir des ressorts de l'histoire?
Bon, j'ai le micro, alors je réponds. En tout cas, chez moi, la magie, elle n'est pas du tout synonyme de pouvoir. C'est-à-dire que les personnages qui manient, il n'y a pas de boule de feu ou de choses extraordinaires comme ça. La magie, elle est plutôt synonyme d'étrangeté. C'est juste une manière, finalement, d'habiter un univers d'étrangeté.
Je ne sais pas trop. En fait, je dirais que mes personnages ont tendance à être de moins en moins magiciens. Mais je dirais que c'est vraiment pour moi un outil assez pratique et c'est un vecteur d'histoire. Si je repense À Arachnae, on a un personnage principal qui est une apprentie tueuse qui a des dons d'augure qu'elle ne gère absolument pas, et en fait elle passe 400 pages à fuir ses pouvoirs. C'est vraiment une source de création d'histoire, une source de questionnement aussi. Je me rends compte que j'ai aussi de plus en plus tendance à m'intéresser à tout ce qui, à l'aspect frics que peut avoir un sorcier, même dans un monde finalement où la magie est acceptée. Et en fait, ce qui est très intéressant pour moi, c'est vraiment la jouer sur ces frontières entre le normal, la normale et le monstre.
Le problème de la magie, et d'ailleurs finalement c'est aussi le problème de la science, c'est qu'au niveau, au moins au niveau narratif, si on a trop, c'est pas intéressant. Si votre personnage est omnipotent, vous arrivez à un échec narratif total. Et on retrouve ça dans Terry Pratchett, dans Sorcellerie, où un huitième fils qui, tout simplement, s'il claque des doigts, le monde disparaît. S'il reclaque des doigts, le monde réapparaît. Et toute l'histoire de bouquin sert à démontrer que c'est juste pas possible pour lui de vivre. Il est obligé de se faire sa petite bulle, ton petit univers personnel, et d'aller y vivre tout seul, parce que sinon, il va très exactement tout détruire. Et la totalité de l'utilisation de la magie dans Terry Pratchett, c'est comment surtout ne pas se servir de la magie, parce que sinon... on éradique tout, et on voit ça exactement, c'est le même principe que l'arme nucléaire, si on commence à s'en servir, tout le monde va mourir, donc il vaudrait mieux utiliser ça de façon dissuasive que de façon effective. Voilà, donc moi il y a un de mes bouquins où je me suis débrouillée avec mes fées pour les priver de toute espèce de pouvoir magique, parce que sinon finalement on s'ennuie terriblement. Si dès qu'elles ont mal quelque part, elles se soignent d'un claquement de doigts, si dès qu'elles ont un chagrin d'amour, elles absorbent un filtre d'oubli, on finit par s'ennuyer extrêmement et par aller se promener au lieu d'écrire.
Alors, Catherine Dufour vient de nous introduire de la rationalité dans la magie en nous disant, en gros, que pour qu'il y ait une tension narrative, il faut limiter l'usage de la magie, justement, et à la limite, l'interdire, parce que sinon, ça devient trop facile et l'auteur n'a plus vraiment la possibilité d'exprimer des choses intéressantes. Alors, si on essaie de voir sur... C'est vrai que c'est un peu un oxymore de mettre ensemble la rationalité et la magie. En tout cas, c'est une relation surprenante. Je pense que vous l'avez fait les uns et les autres à différents niveaux, puisqu'on peut introduire de la rationalité du point de vue du traitement, du point de vue des effets, du point de vue peut-être de l'écriture aussi. Je crois que tous les trois, vous avez des formes d'écriture qui mérite d'être un peu raconté, exprimé, en tout cas des formes très inventives. Alors, est-ce que vous mettez des contraintes dans votre écriture? Est-ce que vous jouez avec les mots d'une manière plus libre dans un environnement magique et merveilleux?
J'avoue ne m'être jamais posé la question, donc je demande 5 minutes de réflexion et je passe la parole à quelqu'un d'autre.
Oui, moi je mets des contraintes dans mon écriture. Le but de mon écriture, c'est ce que j'appelle la lecture interne et la lecture externe. C'est-à-dire que j'écris toujours mes textes pour moi, dans un sabir qui m'appartient, que j'aime beaucoup, mais alors j'oblige personne à aimer ça, parce que finalement c'est pas très compréhensible. Et quand je veux être publiée, je réécris à usage externe pour être lue de l'extérieur. Et notamment j'ai écrit un livre qui est là pas du tout ni magique ni science-fictif. C'est l'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça. Tout simplement parce qu'un jour, mon fils, qui avait 10 ans, est venu me voir et m'a dit « Maman, Napoléon, c'est avant ou après Charlemagne ?» Alors j'ai fait comme la poule, j'ai fait « et j'ai pondu un livre. Je me suis dit « c'est pas possible, on peut pas le laisser comme ça. » Et j'ai écrit l'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça. C'est des chapitres très courts, dans un langage très clair, pour enfants de 10 ans qui ont, on va dire, quelques lacunes. On l'a écrit ensemble avec mon fils et tous les soirs je lui lisais le chapitre que j'avais écrit dans la journée et je voyais ce qu'il comprenait. Et à un moment je parle du World Trade Center et il me dit quoi? Et je lui dis mais c'est les tours, l'avion. Et il me dit ah, les tours jumelles. Alors j'ai rayé World Trade Center, j'ai mis les tours jumelles tout simplement parce que le champ lexical actuel du jeune moyen, c'est tours jumelles, c'est pas World Trade Center. Et c'est un exercice qui m'a beaucoup appris sur la façon d'être recevable par d'autres personnes que soi-même. Parce que écrire, c'est quand même un partage.
On est en train de parler d'écriture pour jeunes. C'est vrai qu'il y a un travail particulier à faire pour cette écriture. Est-ce que la fantaisie ou la magie vous semble parler mieux aux jeunes que d'autres formes ? Est-ce qu'on a envie d'être enchanté quand on est jeune, peut-être encore plus souvent que quand on est plus âgé ?
Je te dirais que mes premiers, enfin à part La Marque de la Bête, mes premiers romans plutôt pour adolescents étaient plutôt du thriller ou du roman historique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, règles en fait. On essaye au départ. Enfin, moi, ça a été, je pense, mon cas et peut-être mon erreur. Quand j'ai commencé à écrire pour les adolescents, à me dire mais ça tu devrais peut-être pas mettre ça, tu devrais peut-être pas écrire ça, tu devrais peut-être pas oser. Et puis finalement, j'ai quand même écrit un premier roman jeunesse qui parle d'inceste. Donc finalement, partant de ça, il y a pas d'autres limites que celles que les éditeurs peuvent éventuellement nous mettre, que celles qu'on se met parce qu'on est un peu, parfois on a des idées préconçues. Mais je pense que l'électorat sont ouverts. Qu'un ado va aussi bien s'intéresser à une dystopie ou un roman de fantaisie qu'à quatre filles et un jean ou les métiers pour les petites filles qui veulent pas devenir princesses de Catherine. C'est vraiment pour moi tout peut être complètement poreux. Ce qui peut changer, c'est l'écriture, et l'écriture en revanche, en tout cas en ce qui me concerne, s'adapte à l'histoire. Je vais simplement pas écrire bon, pour parler un peu crûment, merde conchée, quand j'ai un roman qui se passe au XVIIe siècle parmi la noblesse. C'est vraiment juste une question de logique. Voilà.
Donc c'est l'histoire qui guide la forme.
En général, oui.
Jérôme, c'est pareil. Est-ce que tu sais au départ si tu écris de la fantaisie ou pas, ou c'est l'histoire qui s'écrit et tu vois la forme qu'elle a prise après coup ?
Alors, en l'occurrence, pour Fiery pour les ténèbres, oui, clairement. D'abord, j'ai pas de culture en termes de fantasy. J'en ai lu très peu. Donc, je peux pas me raccrocher au genre avec des références. Enfin, mes références sont très, très limitées. Donc, j'avais la simple envie de créer, d'écrire un truc extrêmement bizarre avec et de construire un univers, de construire un monde. Alors ça, c'est peut-être un acte magique d'ailleurs, de construire un monde. Et c'était ma seule envie en fait. Après, que ce serait faire à de la fantasy ou à d'autres genres, ça m'était totalement secondaire. C'est plus tard, d'ailleurs, c'est plutôt les éditeurs qui m'ont dit ça, c'est de la fantasy. Ce dont je ne suis toujours pas convaincu du tout.
Oui, alors quand Jérôme Noirès dit qu'il n'a pas de culture, surtout ne le croyez pas une seule seconde, Fiery pour les ténèbres...
Non, je parle pas de culture en fantaisie. Voilà.
Fiery pour les ténèbres, un truc absolument fabuleux, c'est un des rares livres qui m'a poussé à passer plus de 2 heures dans les toilettes de la société où je travaille, à m'attirer des remarques désastreuses parce que j'arrivais juste pas à...
Je l'ai écrit dans les toilettes d'ailleurs.
Ah bon, bah alors voilà, ceci explique cela.
Il y avait des glaires.
Mais je voulais rebondir sur ce que disait Charlotte. Il y a une chose qui est très vraie, c'est le problème de la littérature jeunesse. Moi, quand j'ai écrit un livre, effectivement, pour jeunes, je ne l'ai pas écrit pour... à partir de 10, 12 ans, peut-être 15 pour ceux qui sont les moins acclimatés à la lecture, un enfant, au moins au niveau littérature, est un adulte et il peut tout lire. Voilà. Donc je n'ai moi jamais vraiment écrit pour la jeunesse. J'ai écrit pour un jeune qui avait certaines lacunes de connaissances parce qu'il a juste pas mon âge, et j'ai adapté mon vocabulaire à sa génération, mais j'ai pas eu l'impression de simplifier pour m'adresser à quelqu'un d'un peu limité. Mais par contre, effectivement, comme le dit Charlotte, il y a la limitation, elle vient pas des enfants, elle vient même pas des parents, elle vient des éditeurs. Et je sais que dans mon livre sur l'histoire de France, je devais être publiée en jeunesse, et on m'a dit, c'est très bien, mais il faut enlever ce qui gêne les enfants, donc tous les morts, tout le sexe. En histoire de France, vous enlevez les morts et vous enlevez le sexe, il reste l'introduction,
Les dates.
Et le mot fin, ouais, voilà. Donc j'ai repris mon petit manuscrit et je suis allée me faire publier ailleurs qu'en littérature jeunesse. Or moi, quand je le lisais à mes enfants, ils adorent les histoires d'enfants morts, de poison, de couteaux, de... Bon, ils en redemandent au contraire, il a fallu que je limite. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un point de vue de l'éditeur sur son travail, tout simplement parce que l'éditeur a une responsabilité, la littérature dite jeunesse obéit à certaines lois et lui-même est tenu de se conformer au règlement.
À mon avis, tu es mal tombé quand même parce que, évidemment, toi, tu as écrit un livre avec une vocation pédagogique. C'est ton erreur. Il ne faut jamais toucher à la pédagogie quand on écrit en jeunesse. Quand on fait du roman, je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte, mais moi, on me fout une paix royale, quoi. Je peux mettre des scènes de nécrophilie si j'ai envie. Je l'ai fait d'ailleurs dans mon dernier. Ça va, quoi. Je ne subis pas les foudres de la censure.
C'est plutôt de la nécrophilie romantique. Si on parle de Brainless, c'est plutôt romantique.
Mais la nécrophilie, c'est romantique.
C'est aussi beau que les approches rationnelles de la magie.
Écoute, moi, jusqu'à présent, en matière de roman, j'ai jamais eu de soucis. Après, je travaille avec plusieurs éditeurs. On va dire qu'il y en a qui sont très frileux. Dès qu'effectivement, tu commences à vouloir prononcer le mot sexe, ou mort, ou sens. Bon, après, c'est des questions de discussion. Mais globalement, voilà, avec Ghoststream, j'ai jamais eu de problème. Je vais essayer de mettre de la nécrophilie, d'ailleurs, dans le prochain.
Oui, on pourrait faire une anthologie.
D'ailleurs. Anthologie de la nécrophilie pour adolescents. T'es bon. Avec nous, Catherine ?
Super. Nous voyons apparaître des thèmes insoupçonnés. Vous êtes tous les trois aussi des lecteurs et des amateurs de science-fiction, je crois. En tout cas, une des caractéristiques du genre dont on parle souvent du point de vue de l'écriture, c'est tout ce qu'il faut... s'imposer comme contrainte en termes de cohérence interne du récit. C'est ce dont Catherine parlait un petit peu tout à l'heure. Si quelqu'un a des pouvoirs, il est logique que ces pouvoirs fonctionnent à peu près toujours de la même façon. Les conséquences doivent être rationnelles. Est-ce que vous vous imposez des règles de cohérence ? Est-ce que vous essayez d'être rigoureux dans des univers qui, par définition, sont quand même des univers dont vous êtes totalement maître et où vous faites ce que vous voulez et comme vous voulez.
Ben, en général, un livre s'écrit un peu tout seul, donc on essaye juste de le suivre. Une fois qu'on a commencé le premier chapitre, les personnages vous échappent. Donc, ils ont leur propre cohérence. Et la difficulté, c'est de les accompagner, de ne pas les laisser faire être totalement n'importe quoi, mais surtout de ne pas leur couper les bras et les jambes, sinon on se retrouve littéralement à manipuler un cadavre qui n'a plus de cohérence interne. Donc je dirais qu'une fois que vous avez bien planté votre personnage, que vous avez rédigé strictement pour vous-même toute sa biographie et qu'il a acquis son caractère, ses limitations et ses espoirs, il suffit de le laisser se débrouiller sur la page blanche.
C'est quelque chose que vous faites, Jérôme et Charlotte, inventer vos personnages en écrivant leur biographie avant d'écrire l'histoire ?
Non, mais par contre, à partir du moment où on a un rapport intime avec son récit, on n'a pas de problème de cohérence. Si on est avec son récit pendant plusieurs mois, on s'embarque dans un truc quand même, hein, quand on se lance dans une écriture. Si on est proche de son récit, proche de ses personnages, pendant plusieurs mois, si on pense à eux le soir, si pourquoi pas on rêve d'eux des fois, si on discute d'eux, etc. La cohérence, elle se construit de fait, même dans les univers les plus incohérents possibles.
J'ai peut-être une approche du coup vachement plus presque universitaire. Alors je sais pas si je le referais, mais je sais que pour l'archipel dénuminé, j'avais quand même un plan qui était très détaillé. Je m'étais pris plein de notes avant pour justement avoir un univers cohérent avec une magie qui est à peu près cohérente, qui au départ était religieuse, et puis je dois avoir un problème avec la religion parce que au fur et à mesure j'évacuais tout ce qui était à peu près censé être logique. Après je dirais que c'est une question d'ajustement, que effectivement c'est un moyen terme entre l'histoire qu'on a envie de raconter et finalement la direction que prennent les personnages. Et ce que disent Catherine et Jérôme est vrai, c'est qu'on n'a aucune raison de leur couper les ailes. Et à partir du moment où on insuffle finalement je dirais presque une part de nous-mêmes dans les personnages, mais il faut prendre le risque et de les laisser vivre et de faire naître une nouvelle histoire.
Merci. Oui, je voulais dire que ce qui est intéressant, c'est de jouer avec les limites. Une fois que vous avez posé un univers, qu'il soit scientifique ou magique, l'intrigue va naître par friction entre aux limites de ces pouvoirs-là. Et je pense notamment à Retour vers le futur, ou avec le fameux hoverboard, c'est-à-dire la planche à roulettes sans roulettes. Et le ressort intéressant de l'hoverboard, c'est pas tellement quand il marche, parce que à ce moment-là, le McFly peut fuir ses ennemis sans difficulté. C'est le moment où il marche plus, parce qu'il n'est pas au courant que l'hoverboard marche très bien sur le sol, mais il ne marche pas sur l'eau. Et à un moment, il veut traverser un plan d'eau, et là, son hoverboard arrête de fonctionner, et à ce moment-là, il est rattrapé par les méchants, et c'est ça qui crée effectivement l'action et l'intrigue. Parce que s'il pouvait tracer jusqu'à l'autre bout de la Terre sur son hoverboard, il n'y aurait tout simplement pas de film.
C'est un bon exemple, et je suis en train de... c'est finalement la différence entre la magie et la science, c'est le mode d'emploi. Un objet technologique, il y a un mode d'emploi. Dans la magie, il n'y en a pas.
Ça dépend. Et il peut y avoir des règles, des apprentissages, des guides.
Une discipline, mais pas un mode d'emploi.
Et après, on ne les lit pas de toute façon.
Oui. C'est pour ça qu'on a un rapport magique aux objets technologiques. Exactement. C'est parce qu'on ne lit pas les modes d'emploi.
Ça, c'est très vrai. Et c'est ce qu'on voit dans Harry Potter, où en permanence, on découvre de nouveaux artefacts magiques, et en même temps, ses limitations. Et J.K. Rowling prend bien soin de mettre à chaque fois qu'elle rentre un nouvel artefact, il peut casser ou tout d'un coup ne plus fonctionner parce qu'on n'est pas dans les règles. Les règles sont un peu complexes, mais il y a autant de règles et de limitations au pouvoir magique qu'il y a d'introduction de nouveaux pouvoirs magiques. Et on voit d'ailleurs qu'à la fin quand même du cycle, logiquement la magie est quelque chose qui cohabite avec harmonie avec le monde moldu, le monde mundane, c'est-à-dire nous autres pauvres mortels. Et au fur et à mesure que la série avance, ils ont vraiment de plus en plus de mal à rester dissimulés à nos yeux de pauvres mortels, et ils galèrent de plus en plus pour que leur présence passe inaperçue.
On a quand même des auteurs très paradoxaux à cette table, parce qu'ils viennent de reprendre la citation d'Arthur Clarke qui dit que toute science suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ils sont en train de nous reprendre cette affirmation en nous disant « Oui, mais à condition que la science tombe en panne, ne marche pas, qu'on ne sache pas s'en servir et qu'elle soit imprévisible. » Ils sont très forts quand même. Alors, est-ce que du coup, vous avez l'impression que notre monde, qui est de plus en plus technologique et scientifique, est, de par le coup, de plus en plus enchanté? Parce que c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tout. Est-ce que c'est justement parce que ça ne marche pas si bien? Parce que de temps en temps, la couverture Wi-Fi est désastreuse, que de temps en temps, il faut donner un coup de pied dans le réfrigérateur pour qu'il se remette en route. Enfin bon, ça, c'est pas bon comme exemple. Mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de magie, ou est-ce qu'il n'y en a pas de plus en plus? Comment vous le sentez?
Ah, mais on a un rapport magique aux objets technologiques, oui, je pense. Au quotidien, effectivement. Moi, j'ai de curieuses relations avec les télécommandes dans mon salon. Elles ne fonctionnent plus, bien entendu. Je sais que ce sont les piles qui sont vides. Mais j'espère qu'il reste encore une espèce de petite énergie potentielle dans ces piles. Alors, je tapote, je chauffe avec ma main. Et effectivement, les télés s'allument. Et là, je pense, je ne crie pas parce qu'il ne faut pas exagérer, mais je pense magie. Donc oui, on a toujours une espèce de rapport magique à la technologie, et particulièrement quand ça ne marche pas. Oui, il y a une espèce de nouvelle féerie du monde dans la panne.
Mais moi, j'ai toujours trouvé les progrès scientifiques totalement magiques. D'abord, parce que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a aussi des effets merveilleux qu'on n'aurait même pas imaginé rêver avec la science, avec la magie. J'avais lu une wishing list, c'est celle de Stendhal, où il avait dit, bon, si un jour je trouve une baguette magique, là, c'est un anneau magique, quels étaient les 10 souhaits qu'il aurait voulu voir réalisés. Alors, le premier souhait, Je rassure tout le monde, Stendhal était un homme comme un autre. Il n'y a pas... Premier souhait, un large pénis. Ça. Le deuxième souhait, c'est de n'être malade que 3 jours par an. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était tellement extraordinaire, enfin, c'était tellement courant d'être malade qu'on n'a pas été capable d'imaginer « je ne peux plus être malade du tout ». On va dire que ça ne se faisait pas, c'était juste pas dans les mœurs. Et les gens souffraient en permanence, leur vie était qu'une lutte contre la souffrance. On avait mal aux dents à peu près tout le temps, notamment aux dents et pas que. Dès qu'on avait une infection à l'œil, ça ne guérissait jamais. Et j'avais entendu sur France Culture un vieux médecin qui racontait l'irruption de la magique de la pénicilline en 40-42. Il y avait des salles entières de suppurants. Dès que vous aviez une opération, vous opérez l'appendicite ou autre, et puis on vous bandait, et puis on mettait un bac à pu, et on attendait que vous ayez fini de suppurer. Une opération de l'appendicite, c'était 2 mois, 5 minutes d'opération, et 2 mois à voir si vous alliez vous en remettre ou pas. Et il y en avait beaucoup qui ne s'en remettaient pas. Et il a dit, les Américains sont arrivés avec ces grosses ampoules de verre pleines de poudre jaune. On a injecté cette poudre jaune et on a vu des salles entières ressusciter. Ils ont vidé des hôpitaux entiers en 2 semaines. Quoi. Et il en gardait encore un souvenir sanglotant. Et ça a dû être fabuleux. Et il y a quelque chose de fabuleux, de magique dans la science, qu'on comprenne ou pas son fonctionnement.
En fait, je trouve que vous avez une vision qui est vachement plus mieux que la mienne. Parce que quand tu as commencé à parler du monde enchanté d'aujourd'hui, j'ai commencé à voir le réchauffement climatique. Du coup, c'était complètement à côté de la plaque. Non, je trouve, Catherine, ce que tu dis est super beau. Voilà. Et ne pas oublier, effectivement, le téléphone portable, quand il n'y a pas de réseau, on le met là-haut en espérant capter la force. C'est... voilà.
D'autant que il faut distinguer aussi la magie de fantasy, quoi, la magie de la littérature, du jeu de rôle, du jeu vidéo, etc., qui est une magie opérative, surpuissante, qui est plutôt empruntée d'ailleurs au pouvoir du divin, quoi, Zeus avec sa foudre, lançant sa foudre, la boule de feu, etc. Et puis la magie telle qu'elle existe d'un point de vue ethnologique, anthropologique, quoi. Qui est assez misérable en fait, c'est-à-dire les rituels magiques effectifs, c'est extrêmement laborieux, c'est des influences sur le réel plutôt infinitésimales. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai une grand-mère qui voyait les morts. Elle buvait pas. Hein. Elle était bête, mais elle buvait pas. Elle voyait les morts et elle avait aussi tendance à repérer les maléfices potentiels. Et un jour, elle saisit mon oreiller, elle le secoue, elle me dit « il y a quelque chose là-dedans, il y a un maléfice ». Elle ouvre l'oreiller et au milieu des plumes, c'était un oreiller de plumes, il y avait une espèce de petite concrétion d'os et de plumes. Un truc peut-être accidentel hein, dans le remplissage manuel de l'oreiller. Et ça, c'était le maléfice. Et j'avais trouvé ça minable. C'est une magie, une pauvre magie, quoi. 3 os agglutinés avec des plumes. Et c'était ça, le maléfice. Et grosso modo, quand même, la magie donc existante, en tout cas sur le plan anthropologique, quoi, c'est de cet ordre-là. On lance pas de boule de feu, on ne lance pas d'éclairs, on fait des petites merdes avec 3 os, avec un fond de sperme et 3 rognures d'ongles, et c'est ça le maléfice. Moi, j'aime bien cette forme de magie.
Oui, moi j'avais acheté le Grand Albert et le Petit Albert, si vous pouvez les trouver. C'est des livres de magie et c'est des recettes. Et il y en avait une, je me dis bien, moi, je vais essayer. C'était pour faire un miroir magique, on voyait l'avenir, je sais plus quoi. Et en fait, j'ai pas fait. Tout simplement, déjà, faut jeûner 45 jours. Et bon, enfin bref, c'est extrêmement compliqué. Il faut aller saisir une moustache de tigre au galop et tout ça pour obtenir un miroir. Je suis sûre que ça aurait même pas marché. Et effectivement, il y a un aspect soit minable, soit absolument irréalisable dans tous les rituels magiques, du moins ceux que je connais. Et je voulais aussi revenir sur ce que tu disais au sujet du jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est vraiment l'archétype de, en général, enfin, moi là je parle de Donjons et Dragons, environnement magique, donc limitation extrême. Vous faites pas du tout ce que vous voulez, c'est même au contraire extrêmement compliqué. Vous avez une note pour chacune de vos habilités. Dès que vous brandissez une arme, ça va dépendre de votre force, de votre expérience, de celle de l'adversaire, plus son armure magique, moins votre coup critique, on rajoute les départs là-dessus, et plus 4 de PFE. Ça devient extrêmement compliqué pour arriver justement à limiter l'efficacité des boules de feu et des armes magiques. Et moi, j'avais joué à Donjons et Dragons avec un magot demi-elfe, qui au début était un personnage intéressant à jouer et qui à un moment, de donjon en donjon, j'ai fini par avoir un magot demi-elfe qui était au 20e niveau. C'est dénué d'intérêt, voilà, beaucoup trop puissant et j'ai fini par lâcher mon magot demi-elfe que j'aimais tant pour me rebâtir un personnage plus intéressant à jouer, c'est-à-dire tout simplement un gros barbare dénué de pouvoir magique qui avait 20 de constitution, 3 d'intelligence et dont le ressort comique était de laisser tomber en permanence la quête en cours pour aller violer des poules. Et c'était beaucoup plus drôle à jouer qu'un magicien demi-elfe trop puissant.
Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur... Ah pardon, excuse-moi.
Ouais, juste rebondir sur ce que tu dis sur le jeu de rôle. Le viol de poules, c'est super... Bah, voilà. En gros, en fait, c'est vrai que le jeu de rôle a quand même vachement bougé depuis Donjons et Dragons. Et au contraire, pose aussi d'autres questions avec tout ce qui est donc les jeux de rôle narratifs, qu'est-ce que tu fais quand tu as énormément de pouvoir. Et c'est un truc, un aspect aussi que je trouve assez intéressant, qui peut aussi se retrouver dans une approche peut-être aussi scientifique, mais effectivement, qu'est-ce que tu fais quand tu es capable de dégommer quelqu'un avec une boule de feu, et comment tu incarnes ça en tant que joueur. Et c'est, je trouve que ça pose pas mal de problématiques humaines intéressantes aussi.
Alors je me demandais si le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui semble assez récent comme phénomène. Est-ce que vous qui avez une culture historique, est-ce que vous savez si on a eu des équivalents lointains du jeu de rôle actuel, des situations avec des règles, des personnages incarnés, des contraintes, et même de manière plus générale, est-ce que vous pensez que les sources de la magie, c'est quelque chose d'universel, d'international, d'intemporel? On a envie d'imaginer des esprits qui s'incarnent un peu partout dans l'univers, autour de nous, des morts qui sont encore présents, qui ne sont pas tout à fait disparus. Est-ce que c'est quelque chose d'universel ou est-ce que c'est quelque chose qui est très culturel, ancré dans une époque, dans un contexte, dans un environnement? Le jeu de rôle, par exemple, il est lié à notre époque?
Je crois que les sources du jeu de rôle, en plus je suis pas du tout historienne, toi tu sais peut-être, mais il me semble que c'est assez vieux en fait, que le jeu de rôle tel qu'on le connaît avec Donjons et Dragons, je crois que ça doit être les années 70-80, mais qu'on trouve des origines du jeu de rôle qui vont être aussi dans le théâtre d'improvisation, dans des fêtes où on incarne des personnages et ce genre de choses, bien en amont. Et le problème, c'est à moins qu'il y ait un spécialiste du jeu de rôle dans la salle, ou ici, toi, tu sais pas.
Je ne sais pas, mais là, tu parles du jeu de rôle grandeur nature, quelque part.
Grandeur nature, qui est devenu après, effectivement, sur table.
À ce moment-là, les fêtes des fous, les mystères médiévaux, etc., pouvaient être de cet ordre-là, mais c'est un truc assez spécifique, quand même, le jeu de rôle sur table, avec des règles, avec des systèmes mathématiques, etc. Là, je dois dire que...
Je pense que c'est un mix entre ce théâtre d'improvisation et le jeu de société. Et après, pour ce que tu disais, pour le côté, universel de la magie, je pense qu'on a... je dirais qu'avant, peut-être, on avait aussi besoin d'expliquer des choses, que c'est une forme de... En fait, la magie devient un moyen de rationaliser l'inexplicable. Moi, j'ai été pas mal au Maroc, donc dans des villages berbères, et les berbères Et bon, la plupart marocains traditionnels croient à la présence de Jnoun, donc de djinn, d'esprit. Je sais qu'il y a notamment dans le Sousse, c'est un petit coin qui s'appelle la vallée des génies. Donc il y a des grottes dans lesquelles les génies habitent, et les gens vont demander conseil à ces génies, mais ils n'y vont pas évidemment. Il faut qu'ils se préparent avant et tout ça. Ont tendance aussi à considérer que quand ça va pas, c'est que quelqu'un leur a jeté un sort. Donc on a vraiment, je pense, une culture magique, ou en tout cas de l'inexplicable, qui est aussi bien universelle que diverse et très ancienne. Et qu'on continue, mine de rien, à avoir. Moi, je sais pas, mais le côté, je veux pas marcher sur la ligne blanche, sinon je vais pas réussir mon examen. Je crois que je l'ai eu même jusqu'en thèse, quoi. Enfin, je veux dire que c'est dans le genre totalement irrationnel. C'est voilà.
Mais c'est une manière de reprendre le contrôle quand même, puisque si on considère que c'est de la magie, elle obéit à des règles, et à ce moment-là, comme tu disais, elle rationalise l'inexplicable, elle permet de l'expliquer, à la limite, d'en mais devenir maître.
Il y a ça, et puis peut-être aussi le fait aussi qu'on oublie, mais qui est vachement présent, je trouve, dans le personnage de Mémé Sire du Temps de Pratchett. Ce qu'elle appelle la tétologie, ce qui est vraiment le fait de tu es effectivement persuadé d'avoir un mauvais sort ou pas de bol, et puis effectivement le pas de bol qui attire le pas de bol, tu vas avoir ton fri, le fri va te donner quelques prières à faire, te donner un talisman, et à partir de ce moment-là, bizarrement, ça va mieux. Donc il y a aussi une approche qui est presque de guérisseur, hein, que tu peux trouver.
La protection magique. Oui, Catherine.
Oui, pour revenir sur l'historique du jeu de rôle. Enfin, on en a des traces. C'était quelque chose qui semblait assez courant. L'exemple qui me vient, évidemment, c'est un exemple dans les upper classes de la société, mais c'est tout simplement parce qu'on en garde plus de traces scripturales que d'autres classes sociales. Mais il est bien possible que c'était un peu partout pareil, du moins chez les gens qui avaient un peu de loisir pour jouer au jeu de rôle. Je pense aux précieuses, hein, celles de Molière et après, où chacun avait un surnom qui était en général tiré d'un livre de l'époque, genre Lastré ou autre, et agissait, se comportait comme ce personnage. Hein, le duc de Montpensier, c'était le grand Cyrus. Madame Scarron, la future Madame de Maintenant, c'était la belle indienne. Françoise de Montespan, c'était Athénaïs. Et tout ça venait d'un livre nommé Lastré, et il jouait un rôle. Et c'est un rôle qui a duré longtemps pour certaines et certains d'entre eux, puisque il y a certaines femmes que ça a mené jusque dans le lit du roi Louis XIV. Et au bout de 20 ans, Athénaïs, Françoise de Montespan, dite Athénaïs, elle s'est faite quitter par Louis XIV à l'issue de l'affaire des poisons, et elle est rentrée chez elle, et elle a écrit à son mari une lettre signée Françoise, où elle disait: je crois que j'ai fait un rêve où je m'appelais Athénaïs. Donc elle était sortie du jeu de rôle. Et pour reparler justement du caractère un peu miteux de la magie appliquée, il faut savoir que ce dont elle était accusée vis-à-vis de Louis XIV dans l'affaire des poisons, ce n'était pas d'avoir essayé de l'empoisonner, puisque empoisonner son royal amant aurait été stupide, mais c'était dû avoir versé tous les soirs dans son vin du soir un philtre d'amour qui était composé de poils de fesses de prostituées, de sperme de curé défroqué, et je ne sais plus quoi d'autre, et que Louis XIV a appris avec horreur que ça faisait 20 ans qu'il buvait ça tous les soirs dans son vin. Donc là, il a plaqué sa maîtresse, et on le comprend.
Mais il n'était pas malade.
Ah, il paraît que ça lui occurrait d'abominables maux de tête.
Mais nous apprenons des recettes intéressantes ici avec des vrais spécialistes du genre. J'espère que vous avez pris des notes. Je pense qu'on peut garder un petit peu de temps pour que vous puissiez leur poser des questions. Est-ce que la fantaisie est quelque chose d'abord que vous aimez, et est-ce que vous avez envie de l'avoir traitée de manière rationnelle? Est-ce qu'elle en est plus puissante? Oui.
Bonjour. C'est pas spécialement une question, c'est plutôt une remarque, mais vous parlez de la magie aujourd'hui qui est un peu minable, mais je me dis en même temps, quand on regarde la technologie, est-ce qu'on fait aujourd'hui, et la magie qu'on peut trouver dans les jeux de rôle, ça peut être assez proche, parce qu'aujourd'hui, avec les lance-flammes, on crache des boules de feu, on arrive à voler avec les avions, on a envahi les sous l'eau et dans l'espace, La téléportation subatomique est presque atteinte. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'autre idée, mais on communique à de très longues distances, donc une forme de télépathie. Je me dis la magie un peu irrationnelle des jeux de rôle, des univers fantasy, est atteinte avec la technologie d'une certaine manière. Donc, est-ce que c'est pas un peu de la magie aussi, du coup, ça ? Et est-ce que parce qu'on a un médium qui est la technologie, ça fait que c'est forcément pas magique ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de choses magiquement admirables dans toute la science. Et quelquefois, effectivement, on se dit, bon sang, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'il y avait tout ce rêve sur les années 2000 où il y aurait dû y avoir des voitures volantes partout. Et il y a quelqu'un qui a dit, voilà, en 2000, on pensait qu'on aurait des voitures volantes. Et qu'est-ce qu'on a ? Des crétins en trottinette. Et ma foi, c'est assez vrai. Quelquefois, on se demande, qu'est-ce qu'on fait de toute la magie qu'on a su inventer ?
Oui, je ne suis pas d'accord, moi, en fait. Je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec la citation de Clark. Je crois justement que le magique et le technologique se distinguent. Le lance-flamme, par exemple, il y a un carburant. La flamme, elle est produite par un carburant. La boule de feu magique, elle surgit du néant. C'est quand même... Il n'y a pas d'explication à la boule de feu magique. Alors, on peut en trouver une. Oui. Oui, mais ça participe pas de l'explication scientifique. C'est du... Alors, le pseudo-scientifique n'est pas le scientifique.
Alors, on va... Je crois qu'il y a... Il me semble que j'ai vu... Il y avait une autre question, il me semble. Oui, c'est là, voilà.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, c'est plutôt une question historique. Si on enlève les sagas, les contes, les légendes, etc., les frères Grimm, etc., à partir de quand, selon vous, naît le... Est-ce que c'est Tolkien, l'inventeur du genre moderne, la fantasy, ou est-ce que vous identifiez des auteurs avant lui qui auraient pu mettre en place ce genre ? Puisqu'on parle de fantasy, Tolkien, a priori, ça semble être la référence ultime. Est-ce qu'avant lui, il y a eu déjà des tentatives, par exemple Conan le Barbare, etc.
Pour moi, la définition de fantasy comme genre date de Tolkien, mais pas du Tolkien qui a écrit dans les tranchées en 14-18, de la rencontre entre un Tolkien et une génération, celle des années 60, qui tout d'un coup s'est entichée de Tolkien et a elle-même fabriqué, défini le genre, lancé les jeux de rôle. Un genre n'est jamais défini par un auteur qui aurait eu une idée mirifique à lui tout seul, puisqu'on marche tous sur les épaules de géants. En gros, on est tous portés par ce qui s'est fait avant, et avant la fantasy, il y avait les contes de fées et autres. Mais la fantasy en tant que genre, c'est la rencontre entre un auteur et une génération.
Alors, Jean-Choix, tu poseras une question avec un micro, mais là, ça marche pas comme ça, on n'entend pas. Il y a une autre question ici.
Alors, oui. J'ai remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'associations entre science et rationalité. J'avais un peu l'impression, en vous écoutant, qu'il n'y avait pas de rationalité en dehors de la science. Je repensais à des magies, je pense à Le Guin dans Terre-Mère, par exemple, où la magie est associée aux mots, au langage, à des aspects qui sont psychologiques. Je repense à Orwell, à la novlangue, où la langue structure le monde, structure qu'est-ce qu'on peut vivre dans le monde. Donc, est-ce qu'on ne peut pas percevoir une rationalité dans la magie, mais en dehors de la science, une magie des mots, une magie non scientifique pour le coup, à l'opposé de la magie Harry Potter, qui est très scientifique ?
Oui, moi je suis d'accord en fait. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot rationalité de manière un peu maladroite en fait tout à l'heure. Rationalité n'est pas rationalisme. C'est-à-dire, l'oxymore il est plutôt là. Magie et rationalisme. Mais la magie peut être structurée d'une manière extrêmement rationnelle. Oui, oui. Elle l'est d'ailleurs. Les rituels magiques et les disciplines magiques sont archi-rationalisés, indiscutablement, oui. Même dans la magie, dans les formes contemporaines, tels que les portes, par exemple, un auteur comme Alan Moore, la magie du chaos. On garde, même si la tradition et le rituel est un peu mis de côté, on a quand même une pensée structurée, en tout cas.
Tolkien, il a porté des archétypes très forts qui ont été abondamment réutilisés par la suite. Mais la magie, c'est pas uniquement des archétypes. Je crois qu'on a associé l'étiquette de fantasy à certaines incarnations classiques, mais le merveilleux, il est beaucoup plus ancien. Il a pris des tas d'autres formes.
Mais c'est vrai aussi que Tolkien, c'était à la base un créateur, un linguiste, un créateur de langues, un créateur de mots. Et littéralement, il a écrit Le Seigneur des Anneaux pour le plaisir de mettre en scène les langues qu'il avait inventées. Donc là, on reboucle sur la magie par les mots.
Moi, j'avais une question. Enfin, en fait, vous avez beaucoup confondu, vous n'avez pas forcément fait la différence entre notre technologie moderne et la science. Et pour moi, il y a une grosse différence entre donc, la technologie que vous avez évoquée, les avions qui volent, les sous-marins, je ne sais pas quoi, et la science qui est plutôt une forme de, disons, de connaissance, une manière d'essayer de réfléchir. Et est-ce que, du coup, la science en tant que manière de réfléchir, ce n'est pas plus large que la technologie, et ça pourrait englober la magie en tant que, disons, un espèce de corpus de règles ou de manière de tenter de comprendre l'irrationnel?
Oui, sauf que j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, oui, dans la mesure où effectivement la science est toujours aussi une recherche de définition, de connaissance. Oui, la magie pourrait être englobée par la science, mais
il faudrait que la magie puisse se prêter à des expérimentations, qu'on puisse émettre des hypothèses sur la magie, et puis ensuite monter des expériences et vérifier si les résultats sont conformes.
Cela dit, ça pourrait être une idée assez intéressante d'univers où effectivement on tente de canaliser sur ce genre de choses. Voilà. Mais en même temps, je ne sais pas si ce serait si intéressant que ça de tout étiqueter, de tout mettre dans des cases.
Oui, ça serait rigolo. On ferait des filtres d'amour, alors on essaierait de la cendre de pendu. Ça marche
on
pas.
On les testerait sur une centaine d'hommes et de femmes.
Voilà.
Avec un placebo.
Il y aurait des placebos, oui.
Couplées, des potions jumelles qui seraient liées.
Remarque, quand on voit les médicaments et le travail des entreprises pharmaceutiques, il y a un peu de ça aussi. Hein.
Et les sites de rencontres, c'est un peu la même chose que des filtres d'amour, finalement.
Il y a de ça.
Une question.
La poudre de fée sur les photos, c'est ça? Quand tu rencontres la personne, elle est différente.
Ah oui, il y a ça aussi. Allez-y, on vous écoute.
Bonjour. Alors, j'avais peut-être plus une remarque qu'une question. J'ai l'impression que pour vous, la science et la magie sont toujours accolées dans le sens où quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué, ça peut être de la science-fiction. À partir du moment où, par exemple, quand vous parlez de la pénicilline, au début, c'était magique. Une fois qu'on l'a expliqué, c'est devenu de la science. Il n'y avait plus rien de magique dans la pénicilline. Il y a encore des choses inexpliquées qui peuvent être soit magiques, soit scientifiques, on ne sait pas encore. Et par contre, quand on a prouvé que quelque chose était faux, il devient automatiquement magique, finalement, puisque tout ce qui est scientifique ou science-fictionnel aujourd'hui, si on arrive à prouver scientifiquement que c'est faux, toutes les œuvres de science-fiction deviennent des œuvres magiques. Quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a des œuvres, alors avant de les faire réagir, Le Voyage dans le Temps, par exemple, est une hypothèse qui n'est scientifiquement pas tenable à l'heure actuelle, mais qui a servi de base à des romans qui restent étiquetés science-fiction. Le Voyage dans le Temps, on ne dit pas c'est magique. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui tient à la forme de l'hypothèse et pas simplement au fait qu'elle ait été validée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, non, mais c'est tout à fait vrai, sans le formaliser très, très clairement, mais effectivement, quand on pense au voyage dans le temps, on pense science, et pas
même
magie.
Même si ce n'est pas de la vraie science, ça a la forme de la science, le goût de la science. Mais la Rénivène n'est pas notre table. Bon, on va... Il nous reste 3 minutes, donc une toute dernière question, éventuellement rapide. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois que ça va être... Si, ah, là-bas. Je n'avais pas vu.
Bonjour. Moi, j'avais une question, parce que j'ai quelque chose que j'ai remarqué au niveau de l'utilisation de la science aujourd'hui, au niveau social, c'est qu'on fait beaucoup d'hypothèses scientifiques qui ne proposent sur rien. Par exemple, Ayn Rand avait proposé dans La Révolte d'Atlas un bouleversement social basé sur l'énergie libre et gratuite, évidemment, sans expliquer comment scientifiquement elle crée cette énergie. Et aujourd'hui encore, on a, par exemple, avec les transhumanistes, beaucoup d'idées qui viennent pour modifier la société, mais sur une idée magique de comment est-ce que le monde fonctionne. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça aussi, s'il vous plaît, brièvement ?
Du transhumanisme ? Moi, j'en pense beaucoup de mal, mais alors là, ça va être un développement un peu long et il y a des tas de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Et ce qui est amusant, ou étonnant, ou étrange, ou horrifiant dans le transhumanisme, c'est cette volonté d'améliorer l'homme. Alors là, Gilles Dumais serait là, il me dirait c'est pas fait pour améliorer l'homme, c'est fait pour améliorer les riches. Ils veulent tous être immortels et j'attends toujours qu'ils répondent à la question pourquoi faire ? Est-ce que c'est vraiment enviable et à quoi vraiment ça va mener ? Et moi aussi, j'ai posé une colle. Voilà, donc le transhumanisme, enfin, faut savoir qu'il y a le directeur technique de Google, Ray Kurzweil, qui est transhumaniste et qui absorbe toutes sortes de compléments alimentaires pour améliorer ses gènes. Il y a d'ailleurs le transhumanisme, telle volonté d'hégémonie du mâle blanc riche d'Oxford qui a très envie d'être immortel et de l'être tout seul, que vraiment, moi, ça m'est... C'est un mouvement qui m'est très désagréable. Mais j'en ai déjà parlé à des gens qui sont transhumanistes ou qui sont près de ces milieux-là et qui m'ont dit que j'avais rien compris et que c'était beaucoup plus beau et beaucoup plus altruiste que ça. Donc, la suite au prochain numéro.
On pourra proposer une table ronde sur ce thème-là l'année prochaine. En attendant, on va remercier nos intervenants dont vous retrouverez les ouvrages juste à côté. Merci à tous.
Merci Sylvie.